Aristote, Métaphysique, livre 5, chapitre 11 à 15. Chapitre 11. Antériorité et postériorité s'entendent dans certains cas de la relation à un objet considéré dans chaque genre comme premier et comme principe. C'est le plus ou moins de proximité d'un principe déterminé, soit absolument et par la nature même, soit relativement à quelque chose, soit dans quelque endroit, soit sous certaines conditions. Dans l'espace, par exemple, l'antérieur est ce qui est plus proche d'un lieu déterminé par la nature, comme le milieu ou l'extrémité, ou pris au hasard. Et ce qui est plus éloigné de ce lieu est postérieur. Dans le temps, l'antérieur est d'abord ce qui est plus éloigné de l'instant actuel. Il en est ainsi pour le passé. La guerre de Troie est antérieure aux guerres médiques parce qu'elle est plus éloignée de l'instant actuel. C'est ensuite ce qui est le plus rapproché de ce même instant. L'avenir est dans ce cas. La célébration des Jeux néméens sera antérieure à celle des Jeux pythiques parce qu'elle est plus rapprochée de l'instant actuel, l'instant actuel étant pris comme principe, comme chose première. Par rapport au mouvement, l'antériorité appartient à ce qui est plus rapproché du principe moteur. L'enfant est antérieur à l'homme. Dans ce cas, le principe est déterminé de sa nature. Relativement à la puissance, ce qui a la priorité, c'est ce qui l'emporte en puissance, ce qui peut davantage. De ce genre est tout être à la volonté duquel un autre être, être inférieur, est forcé d'obéir, de telle façon que celui-ci ne se mette pas en mouvement si l'autre ne le meut pas, et qu'il se meuve si le premier lui imprime le mouvement. Ici, c'est la volonté qui est principe. Pour l'ordre, l'antériorité et la postériorité s'entendent de la distance réglée relativement à un objet déterminé. Le danseur qui suit le coryphée est antérieur à celui qui figure au troisième rang. Et l'avant-dernière corde de la lyre est antérieure à la dernière. Dans le premier cas, c'est le coryphée qui est principe. Dans le second cas, c'est la corde du milieu. Voilà un point de vue de l'antériorité. Il en est un autre, l'antériorité de connaissance, et cette antériorité est absolue. Mais il y a deux ordres de connaissance, la connaissance essentielle et la connaissance sensible. Pour la connaissance essentielle, c'est l'universel qui est antérieur. C'est le particulier pour la connaissance sensible. Dans les sens encore, l'accident est antérieur au tout. Le musicien est antérieur à l'homme musicien, car il n'y aurait pas de tout sans partie. Et pourtant, l'existence du musicien n'est pas possible s'il n'y a pas quelqu'un qui soit musicien. L'antériorité s'entend enfin des propriétés de ce qui est antérieur. La rectitude est antérieure au poli, car l'une est une propriété essentielle de la ligne, l'autre est une propriété de la surface. Il y a donc l'antériorité et la postériorité accidentelle, et celle de nature et d'essence. L'antériorité de nature n'a pas pour condition l'antériorité accidentelle, mais celle-ci ne peut jamais exister sans celle-là. Telle est la distinction que Platon a établie. D'ailleurs, l'être a plusieurs acceptions. Ce qui est antérieur dans l'être, c'est le sujet. Aussi, la substance a-t-elle la priorité. Sous un autre point de vue, la priorité et la postériorité se rapporte à la puissance et à l'acte. Ce qui est en puissance est antérieur, ce qui est en acte, postérieur. Ainsi, en puissance, la moitié de la ligne est antérieure à la ligne entière. La partie est antérieure au tout. La matière à l'essence. Mais en acte, les parties sont postérieures au tout, car c'est d'après la dissolution du tout qu'elles sont en acte. Tout ce qui est antérieur et postérieur rentre sous quelques points de vue dans ces exemples. En effet, sous le rapport de la production, il est possible que certaines choses existent sans les autres. Ainsi, le tout sera antérieur aux parties. Sous le rapport de la destruction, au contraire, la partie sera antérieure au tout. De même pour les autres cas. Chapitre 12. Pouvoir ou puissance s'entend du principe du mouvement ou du changement placé dans un autre être ou dans le même être, mais en tant qu'autre. Ainsi, le pouvoir de bâtir ne se trouve point dans ce qui est bâti. Le pouvoir de guérir, au contraire, peut se trouver dans l'être qui est guéri, mais non pas en tant que guéri. Pouvoir s'entend donc soit du principe du mouvement ou du changement placé dans un autre être ou dans le même être en tant qu'autre, soit encore de la faculté d'être changé, mise en mouvement par autre chose ou par soi-même en tant qu'autre. Dans ce sens, c'est le pouvoir d'être modifié dans l'être qui est modifié. Ainsi, quelquefois, nous disons qu'une chose a le pouvoir d'être modifiée quand elle peut éprouver une modification quelconque. Quelquefois aussi, quand elle ne peut pas éprouver toute espèce de modification, mais seulement les meilleures. Pouvoir se dit encore de la faculté de bien faire quelque chose ou de la faire en vertu de sa volonté. Ceux qui seulement marchent ou parlent, mais qui le font, ou mal, ou autrement qu'ils le feraient, on ne dit pas qu'ils ont le pouvoir de parler ou de marcher. Pouvoir s'entend également dans ce sens de la faculté d'être modifié. Ensuite, tous les états dans lesquels on ne peut éprouver absolument aucune modification, aucun changement, ou dans lesquels on n'éprouve que difficilement une modification en mal, sont des pouvoirs. Car on est brisé, broyé, courbé, on est détruit, en un mot, non pas en vertu d'un pouvoir, mais faute d'un pouvoir, et parce qu'on manque de quelque chose. Les êtres, à l'abri de ces modifications, sont ceux qui ne peuvent être changés que difficilement, que légèrement, parce qu'ils sont doués d'une puissance, d'un pouvoir propre, d'un état particulier. Telles sont les diverses acceptions de pouvoir ou puissance. Puissant doit donc être d'abord ce qui a le principe du mouvement ou du changement, car la faculté de produire le repos est une puissance, qu'elle se trouve dans un autre être ou dans le même être en tant qu'autre. Puissant se dit aussi de ce qui a la faculté d'être ainsi changé par un autre être. Dans un autre sens, c'est la faculté de changer ainsi un autre objet, ou en mieux ou en pire. En effet, ce qui se détruit paraît avoir la puissance d'être détruit. Il ne saurait être détruit s'il n'avait pas cette puissance. Il faut bien qu'il y ait maintenant, en lui, quelques dispositions, causes et principes d'une semblable modification. Ainsi, on dit dans un sens qu'un objet est puissant en vertu de ses propriétés. Dans un autre sens, qu'il est puissant par la privation de certaines propriétés. Mais si la privation est elle-même une sorte de propriété, on sera puissant toujours en vertu d'une propriété particulière. Il en est de même de l'être en général. Il est puissant parce qu'il a certaines propriétés, certains principes. Il l'est aussi par la privation de ses propriétés, si la privation est elle-même une propriété. Il est puissant dans un autre sens, en ce que le pouvoir de le détruire ne se rencontre ni dans un autre être, ni dans lui-même en tant qu'autre. Enfin, toutes ces expressions signifient qu'une chose peut arriver ou ne pas arriver, ou qu'elle peut se bien faire. De ce dernier genre est la puissance des êtres inanimés, des instruments. C'est à cette condition du bien qu'on dit d'une lyre qu'elle peut rendre des sons. On dit d'une autre qu'elle ne le peut pas lorsqu'elle n'a pas des sons harmonieux. L'impuissance est la privation de la puissance, le manque d'un principe comme celui que nous venons de signaler. Manque absolu ou manque pour un être qui devrait naturellement le posséder, ou bien encore à l'époque où il serait dans sa nature de le posséder. On ne dit point au même titre que l'enfant et l'eunuque sont impuissants à engendrer. De plus, à chaque puissance est opposée une impuissance particulière et à la puissance simplement motrice et à celle qui produit le bien. Impuissant s'entend d'abord de l'impuissance de ce genre. Il se prend encore dans un autre sens. Il s'agit du possible et de l'impossible. L'impossible, c'est ce dont le contraire est nécessairement vrai. Ainsi, il est impossible que le rapport de la diagonale au côté du carré soit commensurable, car il est faux qu'il le soit. Non seulement le contraire est vrai, mais il est nécessaire que ce rapport soit incommensurable. Et par conséquent, non seulement il est faux que le rapport en question soit commensurable, mais cela est nécessairement faux. L'opposé de l'impossible, le possible, est ce dont le contraire n'est pas nécessairement faux. Ainsi, il est possible que l'homme soit assis, car il n'est pas nécessairement faux qu'il ne soit pas assis. Possible, dans un sens, signifie donc, comme nous venons de le dire, ce qui n'est pas nécessairement faux. Dans un autre sens, c'est ce qui est vrai, ou bien encore, ce qui peut être vrai. Ce n'est que par métaphore qu'on se sert du mot « puissance » dans la géométrie. La puissance, dans ce cas, n'est pas un pouvoir réel. Mais toutes les acceptions de puissance en tant que pouvoir se rapportent à la puissance première, c'est-à-dire au principe du changement, placé dans un autre être en tant qu'autre. Les autres choses sont dites possibles ou puissantes, les unes parce qu'un autre être assure elle un pouvoir de ce genre, les autres, au contraire, parce qu'elles ne sont point soumises à ce pouvoir, d'autres parce que ce pouvoir est d'une nature déterminée. Il en est de même des acceptions d'impuissant ou d'impossible, de sorte que la définition de la puissance première est « principe du changement placé dans un autre être en tant qu'autre ». Chapitre 13. Quantité s'entend de ce qui est divisible en éléments constitutifs dont l'un ou l'autre ou chacun est un et a de sa nature une existence propre. La pluralité est une quantité lorsqu'elle peut se compter, la grandeur lorsqu'elle peut se mesurer. On appelle pluralité ce qui est en puissance divisible en partie non continue. Grandeur, ce qui peut se diviser en partie continue. Une grandeur continue dans un seul sens s'appelle longueur. Dans deux sens, largeur. Et dans trois, profondeur. Une pluralité finie, c'est le nombre. Une longueur finie, c'est la ligne. Ce qui a largeur déterminée est un plan. Profondeur déterminée, un corps. Enfin, certaines choses sont des quantités par elles-mêmes, d'autres accidentellement. Ainsi, la ligne est par elle-même une quantité. Le musicien n'en est une qu'accidentellement. Des choses qui sont quantités par elles-mêmes, les unes ne le sont par leur essence, la ligne par exemple, car la quantité entre dans la définition de la ligne. D'autres ne le sont que comme des modes, des états de la quantité. Ainsi, le beaucoup et le peu, le long et le court, le large et l'étroit, le profond et son contraire, le lourd et le léger, et les choses de ce genre. Le grand et le petit, le plus grand et le moindre, considérés soit en eux-mêmes, soit dans leur rapport, sont aussi des modes essentiels de la quantité. Ces noms, cependant, sont quelquefois appliqués par métaphore à d'autres objets. Quantité, pris accidentellement, s'entend, comme nous l'avons dit, du musicien, du blanc, en tant qu'il se trouve dans des êtres qui ont quantité. Le mouvement, le temps, sont appelés quantité dans un autre sens. On dit qu'ils ont une quantité, qu'ils sont continus, à cause de la divisibilité des êtres dont ils sont des modifications. Divisibilité, non point de l'être en mouvement, mais de l'être auquel s'est appliqué le mouvement. C'est parce que cet être a quantité qu'il y a quantité aussi pour le mouvement. Et le temps n'est une quantité que parce que le mouvement en est une. Chapitre 14. La qualité est d'abord la différence qui distingue l'essence. Ainsi, l'homme est un animal qui a telle qualité parce qu'il est bipède. Le cheval, parce qu'il est quadrupède. Le cercle est une figure qui a aussi telle qualité. Il n'a pas d'angle. Dans ce sens, qualité signifie donc la différence qui distingue l'essence. Qualité peut aussi se dire des êtres immobiles et des êtres mathématiques, des nombres par exemple. Ainsi, les nombres composés et non ceux qui ont pour facteur l'unité. En un mot, ceux qui sont des imitations du plan, du solide, c'est-à-dire les nombres carrés, les nombres cubes. Et en général, l'expression qualité s'applique à tout ce qui, dans l'essence du nombre, est autre que la quantité. L'essence du nombre, c'est d'être le produit d'un nombre multiplié par l'unité. L'essence de 6, ce n'est point 2 fois, 3 fois un nombre, mais une fois, car 6, c'est une fois 6. Qualité se dit encore des attributs des substances en mouvement. Tels sont la chaleur et le froid, la blancheur et la noirceur, la pesanteur et la légèreté, et tous les attributs de ce genre que peuvent revêtir tour à tour les corps dans leurs changements alternatifs. Enfin, cette expression s'applique à la vertu et au vice, et en général au mal et au bien. On peut donc ramener les différents sens de qualité à deux principaux, dont l'un est par excellence le sens propre du mot. La qualité première est la différence dans les sens. La qualité dans les nombres fait partie des nombres mêmes. C'est bien une différence des sens, mais des sens ou immobiles ou considérés en tant qu'immobiles. Dans la seconde espèce de qualité, au contraire, se rangent les modes des êtres en mouvement en tant qu'ils sont en mouvement et les différences des mouvements. La vertu, le vice, peuvent être considérés comme faisant partie de ces modes, car ils sont l'expression des différences de mouvement ou d'action dans les êtres en mouvement qui font ou éprouvent le bien ou le mal. Par exemple, cet être peut être mis en mouvement ou agir de telle manière. Il est bon. Cet autre, d'une manière contraire. Il est mauvais. Le bien et le mal, surtout, reçoivent le nom de qualité dans les êtres animés. Et parmi ceux-ci, principalement, dans ceux qui ont une volonté. Chapitre 15. Relation s'entend. Ou bien du double par rapport à la moitié, du triple par rapport au tiers, et en général, du multiple par rapport au sous-multiple, du plus par rapport au moins. Ou bien, c'est le rapport de ce qui échauffe à ce qui est échauffé, de ce qui coupe à ce qui est coupé, et en général, de ce qui est actif à ce qui est passif. C'est aussi le rapport du commensurable à la mesure, de ce qui peut être su à la science, du sensible à la sensation. Les premières relations sont les relations numériques, relations indéterminées ou relations de nombres déterminés entre eux, ou relations d'un nombre avec l'unité. Ainsi, la relation numérique de la pluralité à l'unité n'est point déterminée. Ce peut être tel ou tel nombre. La relation de 1 et demi avec 1 demi est une relation de nombre déterminé. La relation du nombre fractionnaire en général à la fraction n'est pas une relation de nombre déterminé. Il en est pour elle comme pour celle de la pluralité à l'unité. En un mot, la relation du plus au moins est une relation numérique complètement indéterminée. Le nombre inférieur est, il est vrai, commensurable, mais on le compare à un nombre incommensurable. En effet, le plus relativement au moins, c'est une fois le moins et encore un reste. Ce reste est indéterminé, il peut lui être ou ne pas lui être égal. Toutes ces relations sont des relations de nombre ou de propriété du nombre, et aussi les relations par égalité, par similitude, par identité. Mais celles-ci sont d'une autre espèce. En effet, sous chacun de ces modes, il y a l'unité. On appelle identique ce dont l'essence est une, semblable à ce qui a la même qualité, égal à ce qui a la même quantité. Or, l'unité est le principe, la mesure du nombre. De sorte que l'on peut dire que toutes ces relations sont des relations numériques, mais non point de la même espèce que les précédentes. Les relations de ce qui est actif à ce qui est passif sont des relations, soit des pouvoirs actifs et passifs, soit des actes de ces pouvoirs. Ainsi, il y a relation de ce qui peut échauffer à ce qui a la possibilité de s'échauffer parce qu'il y a puissance. Il y a aussi relation de ce qui échauffe à ce qui est échauffé, de ce qui coupe à ce qui est coupé, mais relation d'êtres en acte. Pour les relations numériques, au contraire, il n'y a point acte, à moins qu'on entende par là ces propriétés dont nous avons parlé ailleurs. L'acte considéré comme mouvement ne s'y rencontre pas. Quant aux relations de puissance, il y a d'abord celles qui sont déterminées par le temps. Ce sont les relations de ce qui a fait à ce qui est fait, de ce qui doit faire à ce qui doit être fait. C'est en ce sens que le père est dit père de son fils. L'un a fait, l'autre a subi l'action. Il y a enfin des choses qui sont dites relatives, comme étant des privations de puissance. Ainsi, l'impossible et toutes les choses du même genre, l'invisible par exemple. Ce qui est relatif numériquement ou en puissance est relatif à ce titre qu'on le rapporte à autre chose et non pas autre chose à lui. Ce qui est commensurable, scientifique, intelligible, est appelé relatif au contraire parce qu'on lui rapporte autre chose. Dire qu'une chose est intelligible, c'est dire qu'il peut y avoir l'intelligence de cette chose. Or, l'intelligence n'est point relative à l'être auquel elle appartient. Parler ainsi, ce serait répéter deux fois la même chose. De même, la vue est relative à quelque objet. Non point à l'être dont elle est la vue, bien qu'il soit vrai de le dire. La vue est relative ou à la couleur ou à quelque autre chose de semblable. Dans l'autre expression, il y aurait deux fois la même chose. La vue est la vue de l'être dont elle est la vue. Les choses qui en elles-mêmes sont relatives le sont, ou comme celles dont nous venons de parler, ou bien parce que les genres dont elles dépendent sont relatifs de cette manière. La médecine, par exemple, rentre dans ces choses relatives, parce que la science, dont elle est une espèce, semble elle-même une chose relative. On donne encore le nom de relatif aux attributs en vertu desquels les êtres qui les possèdent sont dits relatifs. À l'égalité, parce que l'égal est relatif, à la similitude, parce que le semblable l'est aussi. Il y a enfin des relations accidentelles. Ainsi, l'homme est relatif parce que accidentellement il est double et que le double est une chose relative. Le blanc aussi peut être relatif de la même manière, si le même être est accidentellement double et blanc.